Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de venir parmi vous aujourd'hui. On parlera des enfants de Moldavie, mais il y a plusieurs sujets. Alors, je vais d'abord me présenter. Eric Famater. Je viens. J'ai grandi en Valais, à Sion. Alors, j'ai deux filles, Florence qui a 18 ans et Salomé qui a 16 ans. J'habite à Vorbe. Où se trouve Vorbe ? Pour vous, j'ai fait un petit dessin sur la carte. Puis ça ne va pas encore. Hein. C'est la fiche qui est sortie, c'est pas grave, ça vient. Voilà, vous voyez ? C'est la moitié du tour du monde, mais... enfin, en tout cas, je suis venu avec plaisir. Parce que tout le monde me dit, mais c'est où Vorbe ? Alors, si vous venez une fois, vous êtes dans la région, vous venez nous visiter là-bas, vous êtes témoin, je vous offre le café quand vous viendrez. Mais on a aussi Sinalco, Coca, tout ce que vous voulez. Qui est la mission chrétienne pour les pays de l'Est ? On est une œuvre d'entraide chrétienne indépendante, fondée en 73, donc il y a plus de 40 ans. Le comité de fondation, les employés, appartiennent à différentes confessions. Et puis le financement provient exclusivement des dons, des collectes, héritages et quelques subventions de la Confédération pour ce qui est par exemple de la formation ou le développement des petites et moyennes entreprises. Pour résumer en trois points le travail de la mission, il y a l'entraide, mais peut-être que je vais commencer différemment. Tout au départ, la mission chrétienne pour les pays de l'Est était connue pour distribuer des Bibles derrière le rideau de fer, et il y a des gens parmi vous, peut-être encore maintenant, qui sont là et qui ont pris peut-être une semaine ou deux de vacances pour aller apporter des Bibles en contrebande, c'était peut-être en Roumanie ou dans d'autres pays, et voilà, parce qu'il n'y avait pas de Bible, c'était interdit d'avoir une Bible sur place. Et puis bon, après le temps a changé, les frontières se sont ouvertes, mais là il y avait une extrême pauvreté. Et il fallait aider nos frères dans les pays de l'Est. Alors, on avait un journal qui s'appelle Nos Frères de l'Est, qui a maintenant changé le nom, qui s'appelle Vision Est. Voilà. Et puis, comme les besoins ont changé sur place, puis qu'on a pu imprimer les Bibles dans les pays de l'Est, eh bien maintenant, ce qui était important, c'est d'apporter de la nourriture et des vêtements pour les gens les plus pauvres sur place. Et puis après, en côtoyant toutes ces populations qui vivaient dans une très grande pauvreté, on a remarqué qu'il y avait tout un trafic de femmes et d'enfants. Alors on a développé notre action encore plus dans le domaine de lutter contre la traite des femmes et des enfants. Puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'offre et de la demande, qu'il y avait l'offre, donc les pays de l'Est, des pays pauvres, sans travail souvent, donc... Ils cherchaient du travail et puis ils se sont laissés embrigader dans des réseaux de prostitution. Alors, après, on a les pays consommateurs, c'est les pays de l'Occident qui consomment beaucoup, la pornographie a augmenté et tout et tout. Alors, maintenant, on a à lutter contre ça dans les pays de l'Est et ici en Suisse. On a créé un réseau de prières contre la traite d'êtres humains. Si vous voulez vous inscrire, vous recevez des nouvelles chaque deux mois. J'ai laissé une feuille sur la table en bas au premier étage, ou bien au rez-de-chaussée plutôt. Actuellement, les derniers projets par rapport à la traite des femmes et des enfants, c'est des centres de jour à Mumbai, en Inde, pour des enfants dont leurs mamans doivent se prostituer. Et avant, ils allaient se cacher sous le lit de la maman quand elle devait faire ces choses-là. Et puis maintenant, on a créé des centres d'accueil pour qu'ils puissent avoir les collages et puis de la nourriture, puis qu'ils ne soient pas dans un milieu qui n'est pas très bien pour eux. Voilà. Et puis, autrement, on a l'action Paquet de Noël qui entre dans la catégorie de l'entraide. Et puis, maintenant, je passe à ce qui est dans le troisième pilier, c'est la croissance, c'est de créer des places de travail, c'est la formation. On forme, par exemple, 120 étudiants à Chișinău, en Moldavie. C'est la moitié d'eux vont partir dans les pays d'Asie centrale. Et ça, c'est un travail très important de former ces étudiants parce qu'ils ne peuvent pas se former dans les pays d'Asie centrale. Créer des places de travail en Roumanie, il fallait créer des places de travail. On a pu créer 10 000 places de travail maintenant en l'espace de 20 ans. Et c'est maintenant les consultants d'entreprise de Roumanie qui vont eux-mêmes maintenant dans les pays comme la Moldavie, le Vietnam, le Cambodge pour enseigner sur place. Je ne vais pas vous faire les pays en détail parce que ce n'est pas le but aujourd'hui. Par contre, si vous avez des questions, vous viendrez peut-être après vers moi, je serai en bas près de la table. Et puis on a un site internet www.hostmission.ch. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté? C'est difficile pour nous de se rendre compte. On peut dire ben, c'est quand quelqu'un a faim, quand il n'a pas des vêtements pour se nourrir. Quand j'étais sur place, je me rappelle d'avoir été dans une famille et puis j'ai demandé à la maman, mais ils sont où les jouets? Et puis, elle n'a pas compris tout de suite, puis j'ai dit, les jouets pour les enfants. Et puis après, elle m'a montré une vieille peluche sur un canapé qui était blanche au début, qui est devenue grise avec le temps. Puis j'ai demandé, mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas reçu de jouets? Puis elle m'a montré avec les doigts, 7 ans. Il n'y avait qu'une peluche. Puis après, j'ai réfléchi à ce qu'on avait chez nous à la maison avec mes deux filles, toute la maison des Barbie et compagnie. Et je me suis dit que c'est quand même incroyable la différence. Par exemple, quand nous, on va se doucher, se laver, on a l'eau chaude qui sort, tandis que chez eux, souvent, il faut aller au puits pour aller chercher l'eau, pour laver le linge, pour cuire, pour faire du thé. Pour tout, il faut aller chercher l'eau au puits. Pas toutes les maisons, mais une grande partie. Après, vous avez de nombreuses familles qui sont dispatchées. Un papa travaille peut-être en Russie ou dans les pays de l'Ouest, en Espagne en quelque part, ou en Europe. Et puis voilà, il reste peut-être la maman qui est seule dans une maison avec les enfants qui doivent se débrouiller. Et puis il y a des familles qui sont des mamans qui doivent élever seules leurs enfants. C'est très difficile pour elles de survivre. Beaucoup de maisons sont laissées à l'abandon parce que sur 10 personnes qui travaillent, par exemple, en Moldavie, vous avez 4 personnes qui doivent partir à l'étranger pour travailler. Il n'y a pas de place de travail sur place. Il faut souvent vivre deux familles dans un petit appartement si on est en ville, parce que les loyers sont beaucoup plus chers qu'à la campagne. Par contre, à la campagne, les maisons sont de très mauvaise qualité et il y a des courants d'air partout. On peut se chauffer seulement qu'une ou deux pièces pendant l'hiver parce que c'est trop cher autrement. Ici, vous avez quelques puits pour aller sortir de l'eau. Et là, vous avez une carte de la Moldavie. Toutes ces taches brun foncé que vous voyez là, c'est là où il y a plus de 3/4 des ménages qui n'ont pas l'eau courante, qu'il faut aller chercher l'eau au puits. Bon, quand on voit tout ça, on se dit que, franchement, on a l'impression que ça n'arrête pas. Depuis 30 ans ou 40 ans qu'on travaille dans ces pays-là, on se dit, mais il y a toujours de la pauvreté. D'ailleurs, même Jésus nous a dit, déjà il y a 2000 ans, que des pauvres, il y en aura toujours. C'est triste quand même, hein. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un garçon, je ne sais pas si vous la connaissez, le petit garçon et les étoiles de mer. Quelqu'un la connaît? Alors, je vais vous la raconter. C'est un garçon, il s'appelle Michel, il se promène au bord de la mer. Il y a eu un grand orage avant, et puis il y a plein d'étoiles, mais des milliers d'étoiles qui ont échoué sur le sable, et c'est très connu, c'est un phénomène qui arrive de temps en temps. Et puis, il est là et il prend ses étoiles de mer et puis il les rejette dans l'eau. Et il y a un vieux monsieur qui passe là avec les cheveux gris et puis qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis, il dit, je prends ces étoiles de mer, il faut les mettre dans l'eau, autrement elles vont mourir. Et puis alors, le monsieur lui dit, mais à quoi ça sert? Des étoiles de mer, il y en a des milliers et puis la plage s'étend sur des kilomètres. Je ne vois pas bien ce que tu vas changer. Et le petit garçon, il prend cette étoile dans la main, il la regarde, et puis il dit, en tout cas, pour celle-là, ça change tout. Et à Après, il prend l'étoile puis la jette dans la mer. Et je trouve que c'est une très belle image. Ça nous encourage toujours à continuer. Pour celle-là, ça change tout. Maintenant, quelques impressions de Moldavie. Il y a des fois des images qui disent plus que des mots. Merci, parce qu'on est là, ensemble, on peut faire des choses fantastiques. Imaginez-vous que l'année prochaine, ça sera les 20 ans de l'action Paquet de Noël. J'ai pris la moitié d'une journée presque pour rechercher les archives et tout, pour regarder dans ces 19 ans combien de paquets de Noël on a pu, ensemble, comment on a pu récolter de paquets de Noël. 1 248 000 paquets de Noël. De toute la Suisse pour les pays de l'Est. C'est un miracle, c'est pas possible de faire ça sans l'amour de chacun, sans le partage de chacun. Je trouve que c'est vraiment magnifique. En tout cas, merci à vous tous qui participez déjà depuis des années à cette action. Puis j'aimerais quand même soulever, pour pas que je lobbye vers la fin, c'est qu'il y a une récolte de vêtements, et donc c'est à l'Escale, vous connaissez bien, puisque Reto est là, dans cette église. Alors, sachez qu'on reçoit aussi des vêtements de la part de l'Escale, environ un camion par année, et que ça nous a permis de distribuer des vêtements en Ukraine, à Zaporojé, vous avez vu les photos. Donc là-bas, on a une base, et puis dans cette base, on a pu distribuer des vêtements. Donc il y a peut-être des vêtements que vous avez apportés à l'Escale, qui sont arrivés... après dans les pays de l'Est, entre autres à Zaporojé en Ukraine. Merci beaucoup. Souvent on prie pour le réveil, pour que le réveil arrive. Ce que j'ai remarqué une chose dans l'histoire, c'est que Dieu envoie le réveil. Et c'est souvent pour préparer son église à des temps difficiles. En 1906, il y avait ce grand réveil, un peu partout dans le monde, à différentes places, qui a été même jusqu'en Corée. Et puis, vous savez, après, il y a eu la Première Guerre mondiale, et puis la Deuxième et compagnie. Enfin bref, c'était pas des temps faciles. Et ici en Ukraine, ça fait déjà plusieurs années que l'Église grandit à environ à 10% par année. Ils sont très actifs sur place. Et puis, c'est des temps difficiles maintenant. En Ukraine, on a déjà eu 7000 morts. Alors, on peut presque des fois se décourager. Mais j'ai jamais vu autant de personnes qui viennent à la foi que ces derniers mois ou années. Sur la place, donc à Kiev, la grande place, on a une distribution de Bibles, et il y a déjà des centaines et des milliers de Bibles qui ont été distribuées sur place. Et puis là, on a notre collaboratrice, Lyuba, qui est en Ukraine, qui va visiter les prisons. Et je vous racontais le témoignage de Edouard, qui a 18 ans, qui est en prison. Je suis depuis 4 ans dans cette prison pour mineurs. Il y a peu de temps encore, je n'étais pas conscient que l'acte pour lequel j'ai été condamné était cruel. Il est rentré à 14 ans à la prison, maintenant il en a 18. J'attendais simplement le jour de ma libération pour continuer comme dans le passé. J'avais des plans. De nombreuses personnes devraient souffrir à cause de mon enfance ratée. Mais tout à coup, toi, Lyuba, et ton équipe, vous êtes apparus dans notre monde. Vous nous avez raconté qu'il existe une autre vie. Si je n'avais pas vu l'ouverture, votre compassion et votre amour pour nous, je ne l'aurais jamais cru. Les 5 jours que vous avez passés avec nous ont été les plus beaux de toute ma vie. Ce furent de toute façon mes seules belles journées. Un grand merci pour la Bible que vous m'avez donnée. Je la lirai et je penserai aux choses que vous nous avez expliquées. Je me réjouis de bientôt vous revoir. Le directeur de la prison s'est aussi converti. Et maintenant, on lui a demandé d'aller dans d'autres prisons. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas nous qu'on peut faire ces choses-là. On va aller maintenant en Moldavie, qui est entre l'Ukraine et la Roumanie, ici. On a été dans différentes villes, et cette année, on a voulu donner une voix aux enfants de Moldavie. Et quand j'ai vu la situation de ces enfants en Moldavie, et quand j'entends autour de nous comment les enfants sont mis à contribution, quand j'entends combien il y a aussi d'avortements dans nos pays, je me dis qu'il y a rarement des temps où les enfants ont autant été mis à contribution que dans ces temps-ci. On envoie des enfants comme des bombes vivantes. On les envoie sur le front comme enfants soldats. Il y a des trafics d'enfants, trafics d'organes, beaucoup dans les pays de l'Est. Et j'en passe. En quelque part, je crois que notre société est vraiment malade. Et on a voulu donner une voix pour ces enfants de Moldavie. Parce que nous sommes sur place et que nous avons vu de nos propres yeux depuis des années déjà, ces choses-là. Nous, enfants de Moldavie, ce chiffre a grandi après année pour atteindre aujourd'hui 250 000 orphelins sociaux. Qu'est-ce que c'est les orphelins sociaux? C'est des enfants qui vivent dans une extrême pauvreté, qui ne sont pas encadrés, qui n'ont pas tous la possibilité d'aller à l'école, ils n'ont pas les habits qu'il faudra avoir, ils n'ont pas la nourriture en suffisance. Il y a des enfants qui perdent les cheveux parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas le matériel scolaire nécessaire. Il y a des enfants qui sont dans des, si on peut appeler ça, des familles ou des connaissances ou un voisin qui a des problèmes d'alcool, qui se font taper dessus. Une grande misère sociale sur place dans ces pays de l'Est. Beaucoup doivent partir à l'étranger pour travailler et les enfants sont laissés seuls. On a de tout. On a des enfants qui sont dans la rue, qui n'ont que très peu de moyens. On a des enfants qui reçoivent de l'argent. Ils ont des habits de marque, super, impeccables. Mais les parents, ils ne les voient pas depuis des années, mais ils reçoivent l'argent par la poste. Je dis la poste, mais c'est dans les canaux, disons, officiels. J'ai pris quelques photos dans des enfants que nous avons visités, des maisons où nous avons été sur place. Ici, on a une maman, Victoria. Elle doit travailler tous les jours de la semaine sur le marché pour un petit salaire de 65 francs par mois. Il faudrait au moins 4 fois plus pour vivre normalement. Il y a 3 enfants, Valeria, 14 ans, Capitolina, 11 ans, Maxime, 8 ans. Ils ont bien une salle de bain, mais comme pas tout ne fonctionne comme il faudrait, ils ne peuvent pas se laver comme il faut. Et puis les enfants, ben, ça sent quand ils vont à l'école, donc ils se font on se moque d'eux quand ils vont à l'école parce que ça sent. Et ce sont des choses qui sont quand même très difficiles pour ces enfants. Déjà, ils vivent dans une extrême pauvreté, puis en plus de ça, ils sont rejetés quand ils vont à l'école. La cuisine. Valeria, elle aimerait devenir coiffeuse. Capitolina, elle aime bien le bricolage. Et puis Maxime, lui, il aime bien la gym. Il y a une grande pauvreté sur place. Malgré tout, on voit qu'il y a de l'amour. Et si les enfants peuvent avoir l'amour nécessaire, au moins d'un parent, eh bien c'est tout ça de gagné. Cette maman doit éduquer seule ses enfants parce que le mari l'a laissé tomber. Il est parti en Russie travailler. Et puis un beau jour, il téléphone comme quoi il a perdu son bras dans un accident de travail. Donc c'est des familles qu'on aide avec les vêtements et puis des paquets de nourriture et les paquets de Noël au temps de Noël. Ici, dans une autre... un village sur place, pas très loin, on a un grand-papa et une grand-maman qui s'occupent de 5 enfants de 3 familles différentes. Il y a beaucoup de familles recomposées. Un des papas revient après 13 ans de prison. Par contre, la maman, elle part. Une des mamans est décédée dans un accident de voiture. Et puis, il y a une autre maman qui va travailler pendant un mois, qu'elle ne voit pas les enfants. Et puis, un mois, elle revient travailler de nouveau. Enfin, elle revient à la maison, pardon. Lyubov reçoit une rente de peut-être environ 73 francs par mois. Et puis, Dimitri, à peu près 45 francs par mois. Et ils reçoivent d'un des papas qui travaille à l'extérieur 150 francs par mois. Il faudrait au moins le double pour vivre normalement. Alors Victor, c'est Victor et Alexandra, sa sœur, qui ont perdu leur maman dans l'accident de voiture. Alors il y a quelques rénovations qui ont été faites, mais maintenant c'est fini, il n'y a plus d'argent pour continuer. Ici vous avez Tania qui va un mois travailler dans une petite boutique dans une ville à côté. Ils ont des chèvres qui leur permettent d'avoir un petit appoint financier. C'est très important pour cette famille, vu qu'il y a une très bonne atmosphère, qu'il y a de l'amour, de l'affection sur place, d'améliorer les situations, la situation de la maison, pour qu'ils se sentent à l'aise, parce que si ça continue comme ça, ces enfants, dès qu'ils ont atteint un certain âge, ils vont partir, ils ne veulent pas vivre là. Ils vont tomber après dans d'autres pièges encore beaucoup plus difficiles. Ils vont tomber dans des situations encore plus tragiques. Donc c'est important de stabiliser ce qui peut être stabilisé. Ici, l'église sur place a prié pendant 8 ans pour avoir des locaux. Et ils ont reçu un endroit, c'était un endroit où se retrouvaient les dealers. Ils ont mis de l'ordre, ils ont fait une ou deux salles. Et puis, dans cette salle ici, que vous voyez avec les tables, ils vont donner une aide pour les devoirs aux enfants. Et puis, les enfants recevront un repas chaud. Et puis, le soir, il y a des consultations pour les familles en difficulté. Et c'est une église qui veut, disons que pour eux, leur vocation, c'est de s'occuper de ces familles dans leur entourage. Donc c'est un engagement social. Là, on a visité dans un autre village deux enfants. Ils étaient très méfiants, ils étaient avec les autres voisins du quartier. Ils ne vont pas à l'école. Ils vivent chez la grand-maman. Ici, vous avez le puits pour aller chercher l'eau. La grand-maman, elle est blessée au visage parce qu'elle a elle a reçu la porte à la figure. Vous avez Elisabetta qui a 93 ans ici. Elle est tout le temps, toute la journée pratiquement, appuyée contre le fourneau. Elle est malade, il faut des médicaments, ça coûte cher. À cause de ça, elle reçoit la rente il y a 2 semaines. 2 semaines plus tard, elle recevait la rente, mais il n'y avait déjà plus d'argent pour le bois. Donc ça, c'est des situations... Quand on arrivait sur place, Tamara, elle était désespérée. Puis elle nous disait que les enfants ils mangent beaucoup, qu'elle n'arrive pas à suivre. Et Yvan, il n'arrêtait pas d'aller dedans, dehors, dedans, dehors. Il était très excité. Ces deux enfants, Alexandre et Yvan, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas vu leur maman. Elle travaille en Russie comme femme de ménage. Puis elle envoie chaque mois environ 150 francs. Et quand on a parlé de la maman, Yvan, il a commencé à avoir les larmes aux yeux. Il attend chaque jour que sa maman vient le chercher, depuis 3 ans. Ça ne va pas toujours bien avec la grand-maman. Il y a des conflits. La grand-maman a des problèmes d'alcool. Et il y a toujours des frictions avec les enfants et la grand-maman. Et c'est important de faire intervenir notre collègue sur place, qui est dans le social déjà depuis des années, qui sait comment s'y prendre, et de parler aux enfants, et de créer une bonne relation entre ces deux enfants et puis la grand-maman, et d'améliorer la situation sur place, et d'encourager les enfants à aller à l'école. Ici, vous avez la cuisine, c'est le local juste à côté. Ce local n'est pas chauffé, il y a une bonbonne de gaz, la cuisinière ici ne fonctionne pas. Après, vous avez deux plaques, sur les deux plaques, il y en a seulement une qui fonctionne. Là, vous avez où dorment les enfants. C'est un cagibi qui est juste à côté du fourneau. Normalement, on mettrait le bois. Ils dorment là tous les deux. C'est très étroit. Il n'y a pas de fenêtre, rien. Ça sent pas très bon. Alors, on veut aider aussi donc cette grand-maman, cette arrière-grand-maman, et puis ces deux enfants à s'en sortir. Et là, vous avez le jouet préféré des enfants sur place. Alors, je vais passer parce que j'ai plus assez de temps ici. On a distribué des paquets de Noël aussi sur place. On peut voir des fois des enfants dans une église bien habillés et tout. Et puis, quand vous les voyez dans leur milieu dans lequel ils vivent, ben vous dites, mais c'est pas possible. Et on veut aider ces 250 000 enfants en Moldavie. C'est un projet qui paraît impossible. C'est comme si Jésus nous demandait d'aller nourrir ces 5 000 personnes avec deux pains et trois poissons. Enfin, il n'y avait pas. On a peu de moyens la tâche est immense, quoi. Eh bien, c'est possible. Moi, je crois que c'est possible. On a créé maintenant un groupe de travail sur place. On a un responsable, on a une université chrétienne en Moldavie qui va former des gens dans le domaine social pour créer des groupes de travail, travailler avec les églises, avec les offices sociaux, et on va faire une aide pour les enfants, pour qu'ils puissent avoir une aide aux devoirs, un suivi pour les collages et un repas de midi. Donc, la nourriture et les vêtements, dans un premier temps. Et puis, ensuite de ça, il y a les personnes de contact, ça, c'est très important. Créer une relation de confiance. Et puis, qu'ils puissent aller à l'école et avoir une formation. Mais maintenant, ce n'est pas possible de faire ça sans Dieu. Il y a tellement de blessures parmi ces enfants qu'il faut un Dieu qui console, qui guérit. Et un Dieu qui crée et puis qui fortifie aussi, qui fortifie ceux qui vont s'occuper de ses enfants, qui fortifie les parents, les oncles, les tantes qui s'occupent de ses enfants. Il pourvoit aux besoins et il multiplie. Donc c'est un culte un peu spécial aujourd'hui, puisqu'on va prendre quand même un petit temps de prière pour ses enfants. Mais auparavant, j'aimerais quand même vous apporter cette parole. Donc c'est un texte, c'est pas très long. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce jeune qui était dans la prison, eh bien il a été touché par la parole de Dieu, et sa vie a été transformée. Il sera encore en prison pour un certain temps, mais il en sortira. Et ce que je remarque année après année dans ces pays de l'Est, c'est que quand des personnes ont reçu, que ce soit des adultes, des grands-papas, des grands-mamans, des enfants, ce sont ceux qui donneront demain. Ceux qui reçoivent aujourd'hui, c'est ceux qui donneront demain. Et ça, j'ai remarqué, mais c'est d'une façon flagrante. Et c'est ça qui est le miracle de Dieu. L'amour de Christ, c'est d'avoir la joie, le bonheur de donner, ça multiplie parce que c'est une action qui continue. Celui qui reçoit aujourd'hui donnera demain. Les places de travail qu'on a créées en Roumanie maintenant depuis une vingtaine d'années, ce n'est pas notre gloire, c'est Dieu qui a ouvert des portes et c'était son travail. Et bien aujourd'hui, c'est les consultants d'entreprise, les entrepreneurs qui sont là-bas, qui ont décidé de faire une action paquet de Noël. Ils le font déjà depuis quelques années. Et c'est eux qui vont maintenant aider les pauvres sur place. C'est eux qui vont donner des consultations au Cambodge, au Népal, en Moldavie, et puis au Vietnam et dans différents pays de l'Est. Tout ce qu'on peut faire pour ces gens là-bas sur place, c'est un bon investissement parce que c'est une action qui va continuer. Maintenant, je ne sais pas comment vous êtes habitué pour la prière. J'ai encore peut-être juste 5 minutes. On veut le faire ? Vous voulez ? Ou bien vous voulez prendre les sujets de prière avec vous, comme vous voulez ? Les deux, alors. J'ai mis quelques feuilles avec quelques sujets de prière pour avoir quelque chose devant les yeux. Soyez libres, que quelques-uns prennent la parole. Et puis on se prend. Puis après, il y en a d'autres qui aiment mieux prier en silence. Faites-le, ça a tout aussi de force. Soyez libres. Il y a 2 ou 3 feuilles. Je changerai de temps en temps les feuilles. Seigneur Jésus, nous te remettons aujourd'hui la Moldavie, ses enfants en Moldavie. Et en même temps avec eux, tous les autres enfants qui vivent des tragédies. Seigneur Jésus, notre cœur est triste pour ces enfants, mais nous voulons aussi nous réjouir pour ce que tu fais dans leur vie, pour ce que tu vas transformer dans ces enfants, que tu vas transformer ces vies. Nous mettons notre espoir en toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.